Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix de la Plume. Je suis Aurore, votre animatrice pour l'heure. Après ces vacances, nous reprenons notre rythme habituel du deuxième samedi du mois à 19h pour notre émission. Aujourd'hui, notre fil rouge tournera autour du sport. En cette rentrée et en ce moment de fête des assos compiénoises, de nombreux jeunes, mais aussi de nombreux adultes, cherchent quelques activités à pratiquer ou à découvrir. Grâce à nos invités de ce soir, nous allons pouvoir en aborder deux. Tout d'abord, ce soir, j'accueille Benoît Decoq. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Aurore.
Tu es l'auteur d'un recueil de nouvelles qui s'intitule « Fausse pelle » et qui navigue autour du thème de l'aviron.
Oui.
Notre deuxième invité du jour est un vétéran d'un autre sport bien connu dans le Compiénois, le tir à l'arc. Bonsoir et bienvenue Jean-Paul.
Bonsoir Aurore.
Donc tu vas pouvoir partager avec nous ton expérience autour de ce sport et j'ai hâte qu'on commence. Mais d'abord, honneur aux auteurs, je vais commencer avec Benoît. C'est vrai que dans La Voix de la Plume, j'affectionne particulièrement mes petits auteurs. Alors Benoît, merci d'être parmi nous ce soir.
Merci à toi Aurore.
Donc on le disait il y a quelques instants, tu as écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle « Fausse pelle » il y a maintenant quelques temps déjà. Et est-ce que tu peux nous raconter en fait de quoi il s'agit ?
Alors « Fausse pelle » est un recueil de 26 nouvelles paru en 2016. Donc ce sont des nouvelles qui, via l'autofiction, parlent du sport en général et de l'aviron en particulier. Donc le narrateur décrit avec parfois humour, parfois autodérision, parfois gravité, et parfois aussi un peu de poésie, les ambitions, l'apprentissage, les joies et les peines du sport. Alors on parle bien sûr beaucoup d'entraînement et de compétition, d'amitié, de rivalité. On parle aussi beaucoup de la rivière, du monde fluvial, qui est un monde mal connu des gens qui ne vont jamais sur l'eau, des gens des terriens j'ai envie de dire. Hein. On parle de femmes, on parle de fêtes au bord de l'eau, et on parle même de rock et même d'opéra.
Eh bien c'est très éclectique tout ça, c'est bien, ça nous fait voyager aussi dans différents univers. L'aviron, c'est quand même un sport assez connu, je crois, à Compiègne. J'avoue que, de mon côté, j'y connais pas grand-chose. Mais je sais qu'on a eu quelques champions issus du Compiénois. Est-ce que tu en as croisé ? Est-ce que je me suis même laissé dire que tu étais toi-même un ancien champion d'aviron. Est-ce que tu peux tout nous raconter ?
Oui, bon, j'ai fait la compétition durant une quinzaine d'années, hein, durant ma jeunesse. C'est vrai que j'étais champion de France d'aviron, j'étais en équipe de France des moins de 23 ans aussi, voilà.
Okay.
D'ailleurs, j'ai terminé deuxième de la régate mondiale des moins de 23 ans.
Pas mal.
Mais j'ai perdu aussi des courses, et finalement, les défaites ont aussi un intérêt littéraire qui est assez important, je trouve. Il y a une matière littéraire dans les défaites, plus que dans les victoires, finalement, et ça m'a aussi aidé pour écrire, je pense. Sinon, pour situer un peu le contexte, j'ai beaucoup ramé avec Bertrand Vecteur, hein, qui était aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. J'ai beaucoup ramé aussi avec Jean-Christophe Bette, qui lui a gagné les Jeux en 2000.
Mm-hmm.
Voilà.
C'est un nom qu'on connaît.
On avait une belle époque, hein, c'est sûr, dans les 90-2000. Mais aujourd'hui, il y a un renouveau au club, il y a de très bons rameurs aussi, qui j'espère, qui jouent même, j'en suis sûr, marqueront l'histoire du club. Hein. Je pense bien sûr aux frères Brisson, à Julien Viandier, à Étienne François et aussi Julien Deck. Voilà.
Ok, un petit dédicace du coup pour tous ces rameurs, c'est chouette. Et comment on passe de la pratique d'un sport à l'écriture ? Parce que tu disais les défaites du coup étaient inspirantes, mais à quel moment tu t'es dit tiens, je vais écrire un livre sur l'aviron ?
En fait, quand j'ai arrêté la compétition, l'aviron m'a quand même beaucoup manqué, sans que je m'en aperçoive tout de suite. Et j'ai voulu retrouver l'ambiance de l'eau, des courses, une deuxième fois, et du coup, je pense que l'écriture est un bon moyen de se remettre se replonger dans ce milieu-là. Cette ambiance-là. Et c'est vrai que moi, j'écrivais un petit peu pour mon travail et aussi pour mes études à l'époque. Hein, et enfin, ça, c'est beaucoup plus vieux. Et on me disait souvent que j'écrivais bien, voilà. Et en plus, j'aimais écrire. Donc, finalement, j'ai écrit sur l'aviron simplement au début pour moi, par travail personnel, pour garder un peu la main pour l'écriture.
D'accord. Donc, à la base, c'était pas un projet forcément de roman ou de recueil.
Non, pas du tout. C'était vraiment une discipline personnelle pour moi continuer à écrire et garder la main. C'est seulement quand j'ai cumulé plusieurs pages et que des amis à qui j'ai fait lire m'ont dit c'est pas mal et tout, que là je me suis dit ouais, il y a peut-être un coup à jouer quand même et je me suis lancé. Quoi.
Ça t'a donné confiance et du coup t'as été jusqu'au bout.
Oui, je me suis dit il faut aller au bout maintenant. Là j'étais un peu au milieu du guet, je me suis dit allez, il faut encore rédiger quelques pages intéressantes et là on ira au bout et on essaiera de publier. Ouais.
Et au bout du compte, ton recueil de nouvelles, On a aussi l'impression de lire un roman quelque part quand on lit le recueil, mais c'est vrai que chaque chapitre, chaque nouvelle a une thématique. Mais comment tu définis cette nouvelle-là, elle va avoir tel thème, etc.
Bon, y a un fil, c'est le narrateur en fait que j'appelle Pierre, qui en fait on le suit durant sa carrière sportive de ce début jusqu'à on va dire sa retraite sportive. Donc le fil, c'est lui qui fait un peu que ça se penser à un roman. Après, chaque nouvelle, en fait, elle est liée à une anecdote, à un thème précis ou à une déconvenue, voilà, à un moment que j'ai voulu mettre un peu en avant, en lumière, qu'il y avait de la matière littéraire, il y avait de la matière par rapport à des paysages à décrire, par rapport à des déceptions humaines, par rapport au goût de l'effort, par rapport à plein de choses comme ça, par rapport à de la poésie, en fait. Je trouve que le sport est plein de poésie, et ça, on ne le voit pas souvent. C'est normal, le sport est fait pour aller vite. Le sport n'a pas vocation à être poétique au départ, mais quand on regarde bien en arrière, on se peut dire qu'il y a quand même des moments de poésie, des fois dans la vitesse, dans les paysages, dans les couchers de soleil sur l'eau, notamment en aviron, hein, qui est un sport finalement très très qui se prête beaucoup à la contemplation poétique, mine de rien, même si on n'a pas le temps de le faire sur l'instant, ça revient après, ça remonte après, et voilà.
D'accord, super. Et donc, du coup, toutes ces thématiques que tu as pu traiter, c'est des choses que tu avais listées en disant j'ai envie de traiter ce sujet, ou c'est venu vraiment au fil de l'eau ?
Non, comme je te l'ai dit, mon écriture, elle est vraiment venue au départ sans me forcer, sans but d'écrire un livre au départ. Donc, j'ai laissé venir les thèmes un à un comme ils venaient. Des fois, je pouvais rester plusieurs mois sans écrire, c'était pas un problème. Et puis, des fois, en faisant une sortie vélo, un footing, j'avais une image qui me revenait en tête et je me disais tiens, là, il y a un thème à développer, et voilà, c'était parti. Quoi. Du coup, j'écrivais pendant 3 heures, même en pleine nuit s'il le fallait, parce que j'avais sous la main, il fallait que...
Il fallait que ça sorte maintenant. Voilà. Que ça sorte bien, il fallait que ça sorte tout
j'allais oublier
de suite.
Après, donc il fallait que ça sorte tout de suite.
Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup apprécié, en lisant ton style qui est fluide, qui est, comme tu l'as dit, même assez poétique parfois. Quand on pense à de la littérature sportive, c'est pas forcément le style qu'on s'attend à trouver, et je trouvais que c'était très agréable de pouvoir lire de cette façon-là. On se laisse vite porter par les petites aventures de Pierre, parce que ton style s'accorde tout à fait au fil de l'eau, au fil de l'histoire. Et donc, ce n'est pas forcément quelque chose que tu as beaucoup travaillé, c'est quelque chose qui est sorti assez naturellement.
Oui, je pense qu'il faut juste être sincère. En fait, quand on veut écrire, c'est mon point de vue, hein, il faut juste pas tricher, être sincère. Donc, c'est des émotions que j'ai vécues moi, alors je les transporte via un narrateur. Hein, donc, du coup... Les anecdotes sont des fois un petit peu modifiées, pas forcément vraies à 100%, mais le fond du sentiment, il est réel, donc j'ai pas triché, donc j'étais sincère, et voilà, c'est tout simplement ça, en fait.
C'est beau ce que tu dis, Benoît.
Non, mais c'est vrai, en plus. Mais oui, c'est ça, je pense qu'il faut être juste sincère, quoi.
Très bien. Alors, je suis obligée de poser la question... C'est quoi une fausse pelle ? Parce que moi, avant de lire ton recueil, je ne savais pas ce que c'était. J'imagine qu'il y a plein d'auditeurs qui ne savent pas non plus. Donc, comme c'est le titre en plus que tu as choisi pour ton recueil, raconte-nous ce que c'est une fausse pelle.
C'est une faute technique que commettent tous les débutants qui font de l'aviron, mais aussi les gens qui font du haut niveau. On a encore vu des fausses pelles cet été aux Jeux Olympiques de Tokyo. Hein. Plusieurs rameurs ont failli perdre des médailles à cause de petites fausses pelles. Elles se voient très peu à l'écran, mais quand on essaie de les reconnaître, on les voit quand même. En fait, c'est quand au moment où on tire sur l'aviron, qu'on appelle aussi la pelle dans le sport l'aviron, hein. Quand on tire sur la pelle, on la sort mal de l'eau parce qu'on fait un mauvais geste ou parce qu'une vague empêche de la faire sortir correctement. Et du coup, elle reste bloquée dans l'eau. Et du coup, ça freine le bateau au meilleur des cas. Mais au pire, ça le déstabilise ou même ça peut le faire chavirer. Donc c'est une fausse pelle, voilà, qui peut faire tomber dans l'eau. Et pour moi, en fait, le titre allait bien avec le texte, parce qu'en fait, je l'ai mis au pluriel, hein, fausse pelle au pluriel. Et du coup, ça renvoie un petit peu à chaque nouvelle, qui sont aussi... Il y a des moments de succès, mais il y a aussi des déconvenues dans ces nouvelles. Et voilà, c'est des fausses pelles, des petits
fausses pelles de la vie, quoi.
Fausses pelles de la vie, si tu veux, ouais.
D'accord, merci. Et c'est vrai que... c'est peut-être complètement idiot, mais... Quand on parle de l'aviron, pour moi l'aviron c'était le bateau, et c'est qu'en lisant ton roman, tes nouvelles, je vais y arriver, que j'ai compris que l'aviron effectivement c'était pas du tout le bateau, c'était la rame en fait. Enfin...
Alors c'est la rame dans le dictionnaire, c'est vrai qu'on a finalement dans le sport l'aviron, on dit quasiment jamais l'aviron pour la rame, on dit la pelle en fait. Mais voilà, c'est un des paradoxes de la vie. Voilà.
Super, je vous propose une petite pause musicale avant de continuer un petit peu avec Benoît, parce qu'il y a encore des choses à dire sur ce recueil Fausse Pelle. On va partir avec Portiched, une chanson d'ailleurs qu'affectionne notre auteur de ce jour.
Thank you.
De retour dans La Voix de la Plume, nous sommes ce soir avec Benoît Decoq, auteur du recueil de nouvelles Fausse Pelle, et avec Jean-Paul, qui est animateur...
Entraîneur de tir à l'arc
entraîneur,
à la retraite.
Voilà, très bien. Qui va nous en dire plus aussi sur son métier après. Benoît, tu nous as un petit peu raconté comment t'en es venu à écrire ce recueil de nouvelles sur l'aviron, Fausse Pelle. Jean-Paul, une petite réaction par rapport à ce que Benoît a dit ?
Non, moi, je ne savais pas que Benoît était un écrivain dans l'âme. Mmh. Hein, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, bon, moi, qui ne me viendrait pas à l'esprit du fait que, bon, quand j'étais jeune, le français et tout ça, ce n'était pas encore ma tasse de thé. Hein. Pourtant, j'essayais de travailler, j'avais plein d'idées, mais pas moyen vraiment de les mettre, en ordre. Donc c'est vrai que, puis là, dans l'intermède, je discutais un petit peu avec Benoît, et comme il me disait, il fait lui non plus, ça venait pas dans l'ordre. Hein, il travaillait, il écrivait des phrases, par rapport à des idées, il remettait des choses en place, ça revenait, donc il mettait du temps aussi. Mais lui, c'est ce qu'il aime. Moi, ce que j'aimais plus, si vous voulez, dans le monde du théâtre, qu'on discutera tout à l'heure, c'était le contact humain, l'empathie des gens, toutes ces choses-là.
Donc chacun son... son domaine de prédilection et voit ce midi à sa porte un peu dans, les activités qu'on fait.
On peut pas être partout à la fois.
C'est vrai, c'est vrai. Benoît, j'ai cru aussi comprendre que ton recueil avait quand même eu son petit succès, si je peux me permettre. Et du coup, tu as été nominé, enfin, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est le recueil qui a été nominé à différents prix, et même parfois lauréat. Donc je vais me permettre d'en citer quelques-uns, donc notamment en littérature sportive. Il y a eu le prix Postscriptum de la Française des Jeux, par exemple, et aussi tu as été lauréat du prix Lettres et Images du sport de Bressuire. J'ai bien prononcé ?
C'est ça, oui. Oui.
Et voilà, sans compter notamment que tu as participé au prix Goncourt de la Nouvelle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce prix ?
Non, c'est vrai que quand le livre est sorti, j'étais déjà très content et j'ai voulu malgré tout ambitionner, un peu comme un sportif, de postuler à différents concours pour évaluer un petit peu le livre, même si j'en ai pas fondamentalement besoin, mais c'est vrai que il y a toujours un petit challenge qu'on a envie de réussir. Et donc je savais que la nouvelle n'était pas un genre très répandu en France et je me suis dit il faut quand même postuler au concours la nouvelle. Après tout, on ne sait jamais.
Et
mon éditeur n'était pas forcément très enthousiaste au départ. J'ai dit, mais si, on ne sait jamais, ça ne coûte rien. Encore une fois, il y a peut-être un coup à jouer, on ne sait pas.
Et puis c'était vraiment dans ta culture aussi sportive,
de
te mettre en difficulté.
Confronter un peu aux autres, de voir un peu ce qu'on vaut, sans vouloir forcément absolument gagner, mais au moins s'évaluer. Quoi. Et puis du coup, j'ai eu la grande joie de constater que j'avais été retenu pour ce prix. Je l'ai pris dans mon bureau, je me rappelle à l'époque, j'avais dû pousser un cri dans mon bureau. Et tout le monde demandait ce qui se passait. Voilà.
Mais c'était pour une bonne nouvelle. Voilà. Du coup, tu es arrivé deuxième, c'est ça, du prix Goncourt ?
Oui, si on compte le nombre de voix, ça fait ça. Oui. Ils ont publié le résultat après le vote. Et voilà.
D'accord. C'était en quelle année
En 2017.
2017. Oui. Super. Peut-être une dernière chose, où est-ce qu'on peut trouver ton roman et est-ce qu'on te retrouve aussi sur les réseaux si on veut te suivre et voir ce que tu vas faire par la suite ?
Alors on peut acheter le livre sur le site des éditions Salto, qui est mon éditeur. Donc le site c'est www.editions-salto.fr.
D'accord.
Sinon moi j'ai une page Facebook tout simplement, Fospel au pluriel, voilà.
D'accord. Ok. Tu postes encore régulièrement des choses ?
Non, pas grand-chose, parce que c'est vrai que le gros de ce qui s'est passé par rapport au livre, c'était il y a déjà plus de 2 ans, donc maintenant ça se tasse un petit peu, quoi. Il se passe pas forcément grand-chose, le livre a quand même déjà maintenant 5 ans, donc voilà.
Okay. Mais tu continues...
J'aimerais qu'il rebondisse quand même, j'aimerais qu'effectivement on en parle toujours, mais ça me ferait plaisir, mais c'est vrai que là, sent que c'est un peu le creux de la vague.
Voilà. Tu pourras donc poster le podcast de cette émission.
Très bien.
Sur ton Facebook. Et tu continues d'écrire, même pour le plaisir
Eh bien, hélas, pas trop. J'ai pas trop de sujets sur lesquels j'ai vraiment eu un déclic où je me suis dit, là, il y a une chose à faire. Enfin, j'en ai un quand même, un petit peu, mais qui est pas assez abouti. C'est un petit peu lié au vélo, au cyclisme, j'ai envie de dire historique. Des épreuves d'il y a un siècle. Mais bon, c'est pas assez poussé pour l'instant. Et non, j'ai pas vraiment.
Il n'y a pas encore le coup de cœur qui te pousse à écrire jusqu'à 3h du matin. Là.
Ouais, dans ma tête, j'ai pas encore basculé. Donc, non.
D'accord. Mais ça reste dans un coin et puis c'est jamais perdu.
J'aimerais avoir un projet, effectivement. Ouais.
Et du coup,
il faut laisser venir.
Pour le coup, c'est toujours un peu sur le sport aussi, le cyclisme, qui est un sport que tu affectionnes par ailleurs, du coup.
Du
fait qu'il fait une émission de radio, ça va peut-être le booster, là.
Qui sait ?
On sait jamais,
J'aimerais bien pouvoir inspirer comme ça des auteurs, génial. merci beaucoup. Donc on a dit Facebook, Fospel au pluriel, et puis on retrouve le recueil sur les éditions Salto.
C'est ça.
Génial. Jean-Paul, t'es prêt ?
Ah oui, je suis prêt.
T'es toujours prêt, super.
Toujours prêt, moi.
Tu es maintenant à la retraite, mais du coup, avant ça, tu nous l'as dit, tu as passé de belles années au club de tir à l'arc de Compiègne en tant qu'entraîneur.
Et j'en passe toujours.
Ah ah ! Et aussi à la Fédération française de tir à l'arc.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux nous dire quels ont été tes différents rôles au sein de ces organisations au fil des ans ?
Alors, j'ai commencé à... Je vais faire un petit historique quand même. J'ai découvert le tir à l'arc à l'âge de 40 ans. Donc maintenant, j'en ai 66. J'avais un copain qui était dans le bureau du club de Compiègne. Première chose que j'ai fait, c'est aller tenir pendant une compétition, on fait passer de la musique. C'est comme ça que j'ai connu. Après, dans ma vie personnelle, j'avais des hauts et des bas. À un moment donné, je me suis retrouvé, j'étais au chômage. Hein, et là, il cherchait quelqu'un, un contrat CES pour une durée de 20 heures. Hein, et là, ça m'a plu.
C'était un tremplin, en fait, à ce moment-là.
Ça a été un peu un tremplin. Les gens, donc, je réparais du matériel, tout ça, j'accueillais les gens. Donc, comme ça, c'est quelque chose que j'aime bien, avoir le contact humain avec les gens. Hein. Donc, je les écoutais beaucoup, hein, discutais de leurs problèmes, tout ça.
Hein. C'était un peu le psychologue du club.
Peut-être. J'écoute facilement les gens. Moi.
Informel, en tout cas.
J'écoute facilement les gens. Hein. Donc, et après, donc, CES, on est passé à des contrats un peu plus, avec plus d'heures. Déjà, quand je faisais 20 heures de travail officiel, mais en réalité, j'en faisais 70. Quoi.
Ah oui.
Je me sentais très bien, là. Donc, pourquoi partir ? Pourquoi rentrer chez moi ? Puis, autant rester au tir à l'arc où on se sent bien, quoi. Hein. Donc après, le club m'a payé une formation pour avoir mon brevet d'État. Hein. Donc j'ai passé mon brevet d'État et là j'ai commencé...
D'entraîneur du coup.
Voilà. Comme ça j'ai commencé à entraîner. Donc je m'occupais des jeunes, ceux qui débutaient, hein, de l'initiation. Hein. Je m'occupais après des jeunes qui continuaient un petit peu plus... qui avaient 2 ans ou 3 ans de tir. Hein, et de l'initiation adulte aussi.
D'accord. Au fur et à mesure, en fait, du coup, t'as eu un peu tous les publics, finalement.
Voilà, j'ai eu un petit peu tous les publics. J'ai fait pendant des années du scolaire, hein, puisqu'on a la chance d'avoir un centre à Compiègne, vraiment une grosse structure, mm-hmm. hein, qui actuellement, bien sûr, on est un peu coincé, parce qu'avec les Jeux de Paris 2024, on est en train de faire des travaux, on va profiter des subventions qui peuvent être données. Donc là, tout le club est en gros travaux, hein. Donc ça va perturber nos anciens licenciés, puisque les anciens oui. licenciés, ils pouvaient venir un peu comme ils voulaient. Mais maintenant, on va avoir une... Grâce à la mairie, on a réussi à avoir le gymnase qui se trouve au-dessus de la piscine avenue de Houy.
D'accord.
Sauf qu'on a des créneaux. Là, ça va être des créneaux de 18h à 22h. Donc les licenciés qui ont l'habitude de venir, eux, ils venaient pendant toute la journée, quand ils voulaient. Là, maintenant, ils vont être obligés de venir dans ces créneaux.
Ça va changer un peu les habitudes, mais juste pour la période des travaux.
Oui, il y en a pour un an.
Quand même.
Donc la saison, on a eu le Covid. La saison qui arrive là, ben, ça va être un peu difficile. Hein. Donc on va s'adapter. On va s'adapter parce que comme on a des structures quand même de haut niveau au niveau du club, on a un pôle espoir donc qui appartient à la région.
Mais qu'est-ce que c'est un pôle espoir ? Tu peux nous expliquer ?
Alors un pôle espoir, c'est le début du haut niveau. Hein ? Les gens qui sont détectés un peu dans les clubs vont intégrer cette structure qui va être aidée donc bien sûr par la région. Qui va être aidé un peu par la Fédération française de tir à l'arc. Et les gens, donc, on leur donne les moyens de pouvoir s'entraîner, mais comme des malades, quoi. Donc, ils ont à peu près pas loin de 20 heures d'entraînement par semaine.
Ah oui.
Donc, avec des horaires aménagés. Donc, c'est un sport-étude, en général.
D'accord. Donc, ça s'adresse plus aux jeunes, donc.
Ça s'adresse aux jeunes. Donc, ils sont détectés hein, par rapport à ce qui est dans les clubs. Hein, je pense qu'en aviron, il y a peut-être, je ne sais pas s'il n'y a pas un pôle espoir aussi en aviron.
Oui, il y en a plusieurs, pas à Compiègne, mais il y en a plusieurs en France. Ouais.
Et donc, suite à ça, donc, après, ils sont détectés dans les clubs, ils arrivent au pôle espoir, on essaye de les faire monter, et après, ils s'en vont dans les pôles France, hein, pour après arriver à l'INSEP. Hein, parce que leur but, là, c'est le début.
L'INSEP qui est ?
L'Institut National du Sport à Paris. Là.
D'accord. Hein, c'est pour que nos auditeurs soient
voilà,
tous au même niveau que nous. Hein.
Donc, normalement, ceux qui sont à l'INSEP, ben, ils bossent, et leur rêve, c'est les Jeux Olympiques. Quoi. Hein, pour tout compétiteur, c'est ça, c'est les médailles des Jeux Olympiques. Hein, moi, je me rappelle les médailles d'aviron avec Jean-Christophe Bette. Hein, on avait mis un grand écran dans la salle de tir à l'arc, et puis les archers, et puis l'aviron, tout le monde était en même temps, puis on a regardé ça, c'était un moment sublime, ça. Hein.
Tout le monde soutenait son champion.
Ah ouais, aviron
ou pas aviron.
Tout à fait. Hein, parce que bon... Alors nous, dans le club, on est toujours en sport de haut niveau. Alors nous, on appelle ça la D1, hein, donc les équipes de D1. Donc c'est Division Nationale 1, qui correspondrait à la Ligue 1 de football.
Hein,
donc c'est vraiment le haut du panier.
Le top, ouais.
Donc on s'y maintient depuis plus de 20 ans. Donc c'est pour ça qu'on essaye de travailler, on essaye d'avoir des gens, on essaye de former des gens, des jeunes. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc ça, c'est pour le travail du club. Donc là, je continue parce que...
Eh oui, parce que prendre avant, sa retraite, c'est pas si facile. En fait.
Avant, j'étais salarié bénévole, hein, puisque je faisais plus d'heures qu'il ne fallait. Hein, maintenant, je suis retraité bénévole. Donc là, je continue. Mais, donc, je tiens la trésorerie du club. Et je m'occupe de tout ce qui est initiation adulte. Et bien sûr, quand il y a des compétitions ou des choses à faire, je travaille dedans.
D'accord.
Alors, pendant que je travaillais au niveau du club, je travaillais aussi pour la Fédération française de tir à l'arc. Hein, comme le président du club, Philippe Bouclet, était aussi président de la fédération. Hein, et on s'occupait de tout ce qui était résultat officiel.
Donc on des compétitions, tout ça.
Des compétitions officielles, nationales et internationales. Donc, on avait tout un système informatique pour pouvoir récupérer les scores rapidement, hein, les divulguer très rapidement. Et maintenant, ça va de plus en plus vite, quoi. Donc, je dirais, les personnes qui arrivent, qui tirent, elles sont rentrées donc, dans un genre de smartphone, ils vont rentrer tous leurs scores. Hein. Ils ne sont pas rentrés de leur cible au pas de tir.
Que ça y est,
ils connaissent
disponible.
Le classement. Tout est envoyé sur Internet. Et tous les gens n'importe où dans le monde, ils peuvent voir ça en live.
Super.
Hein, donc,
ça a été des évolutions aussi au fil des années.
Ça a fait des grosses
évolutions.
Et ça a permis, moi, de pouvoir aller me balader un peu. J'ai fait des championnats d'Europe, championnats d'Europe adultes. À Bruxelles, je me rappelle, on a fait à Lille Chaux les championnats, les Junior Cup. Pareil, c'est les championnats d'Europe, mais pour les juniors. Hein. Donc, j'ai voyagé un petit peu. Un peu partout en France, comme on se déplaçait beaucoup en France.
Et donc, aussi en Europe, du coup, tu disais.
Et un peu en Europe, oui.
Benoît, toi aussi, tu as eu l'occasion comme ça de voyager avec les championnats que tu as fait au fil des années?
Oui, beaucoup en France, bien sûr, hein, un petit peu en Europe, mais pas forcément tant que ça. Je voulais juste réagir quand même un petit peu par rapport à Jean-Paul, en fait, parce que je fréquentais un peu les archers auparavant, et du coup, je connais un peu Jean-Paul. Et en fait, il fait partie de ces gens vraiment très passionnés dans la vie des clubs, hein, qui sont toujours là, qui rendent service, qui font de l'initiation, du sportif, mais aussi du matériel, de la gestion du bâtiment ou des compétitions. Et voilà, ces gens-là sont hyper précieux et Jean-Paul en fait partie. Voilà.
Quelqu'un merci. Sur qui on peut compter, dis donc, c'est beau. Hein, c'est, beau. C'est vraiment beau ce que tu dis aujourd'hui, Benoît. Merci. Hein.
Non, mais c'est vrai parce que nous, on joue au niveau du club. Bon, on bosse. On voudrait essayer de passer la main, des fois, pour... Mais alors, maintenant, bon, je suis à la retraite, j'ai du temps. Hein, mais c'est vrai que ce qui est difficile, c'est de trouver de plus en plus de bénévoles. Quoi. Mmh. Hein, parce que c'est pas facile du tout, quoi.
Hein, oui, il y a peu de gens qui ont envie de s'investir à ce point-là, on va dire.
Il y a des gens qui veulent s'investir, mais c'est pareil, il faut donner de son temps, il faut en vouloir. Alors, moi, j'ai la chance de pouvoir donner beaucoup parce que je suis célibataire. Quelqu'un qui est en couple, c'est très difficile. Hein, surtout quand je travaillais pour la fédération, tout ça, j'étais parti tout le temps. Hein, je travaillais au club, j'étais parti. J'avais mon. J'avais mon fils, tout ça. Les week-ends. Alors, je l'ai emmené avec moi beaucoup, beaucoup de fois. Et après, quand il était plus grand, qu'il était ado, papa, j'ai plus trop envie d'y aller, je voudrais peut-être sortir en boîte, quoi. Hein, donc, voilà, c'était. Mais bon, il a très, très bien vécu. Il a très, très bien vécu. Mais c'est vrai que c'est des. Trouver des bénévoles qui... Moi, j'ai fait ça par passion. C'était même pas un métier pour moi, c'était une passion. C'est devenu une passion.
Ça, c'est super, hein, quand on a l'occasion de faire un métier dans sa vie.
Voilà. Alors, comme je dis, c'est pas des métiers qui sont fort payés, puisqu'on est dans des clubs. Hein, donc, et dans des clubs, on peut
payé
pas...
payé par des assos, tout
c'est
ça.
Pas,
bah
c'est,
oui.
pas, c'est pas... Donc, on a des subventions d'État, de la région, du département, de la ville, tout ça. Heureusement qu'on a tout ça. Parce que, bon, quand il y a des salariés, il faut bien les payer aussi. Puis, il faut essayer de les garder, quoi. Donc moi, celui qui m'a remplacé, c'est Olivier Tavernier, hein, qui était athlète de haut niveau, Benoît a connu. Hein, et maintenant, bon, c'est pareil, lui. Donc quand vous avez quelqu'un qui a été champion d'Europe, plusieurs fois champion de France, tout ça, et qui entraîne dans votre club, c'est bien. Mais après, il faut que les jeunes se motivent un petit peu. Et ça, c'est difficile. Je trouve qu'on est dans une génération, surtout avec les médias, où on a tout de suite. Hein. Donc, eux, ils veulent être champions tout de suite. Alors qu'on leur dit que si tu veux vraiment être champion, tu as un minimum de 10 ans de travail à faire.
Ça démotive un peu.
Ça les reboote un petit peu. Mmh. Pourtant, donc c'est pour ça qu'il faut toujours dialoguer avec eux. Moi, j'essaie d'être gentil, tout ça. Hein. J'avais la manière certainement de faire, si tu veux, parce qu'on me dit toujours, t'es très pédagogue. Mais par contre, après, les jeunes me disaient, mais alors t'as fait quoi? T'as été champion de France? Je fais, non, j'ai pas été champion de France. Par contre, je vais pouvoir t'aider quand même à essayer de t'amener au maximum de tes capacités. Parce que si tu poses une question sur le haut niveau, sur ces choses-là, si je peux pas te répondre directement, je vais aller chercher les informations et je vais te les redonner. Mmh. Hein? Donc, j'ai toujours fait ça, je dirais, en bonne cohésion avec tous les gens que j'entraînais.
Hein? Oui, et puis après, ça dépend aussi de l'ambition de chacun.
Ça dépend de l'ambition.
Tu avais découvert le tir à l'arc sur le tard aussi. Donc.
Oui, et puis nous, c'est comme dans tous les clubs. Ça va, il y a toujours, on part du loisir. Hein, et après, dans le loisir, il y en a qui vont vouloir se détacher un petit peu, qui vont vouloir peut-être aller faire de la compétition, tout ça. Hein, et puis, ils vont vouloir aller plus loin. Mais ça, c'est pas évident. Nous, comme je dis toujours, la compétition, elle commence avec nous-mêmes.
Hein.
On tire une première flèche. Elle va atteindre la cible, hein, ou pas. Elle va atteindre la cible ou pas. Hein. Déjà, la deuxième flèche...
Ça, je me remémore les premières fois où...
Déjà, la deuxième flèche, on va essayer de faire mieux.
Et
donc,
oui.
Donc, comme tu vas essayer de faire mieux, t'es en compétition déjà contre toi-même. Et après, tu vas vouloir essayer de rencontrer des gens qui sont peut-être un peu plus forts que toi. Et puis tu vas avancer comme ça. Donc nous, on va faire des petits concours internes au club pour s'amuser. Hein. Puis petit à petit, on voit ceux qui en veulent.
Du coup, c'est la persévérance qui amène le goût de l'effort, qui amène la performance.
Ah oui, tout à fait.
On parlait un petit peu en antenne aussi avec Benoît. Et tu disais, commencer l'aviron quand on est adulte, c'est compliqué aussi parce que ça demande beaucoup de rigueur, de la précision. Et c'est peut-être des gestes qu'on apprend plus facilement quand on est plus jeune.
Oui, en plus, moi je suis assez admiratif des gens qui débutent l'aviron étant adultes, hein, ayant passé 30 ans, 30, 40 ans, parce que c'est pas facile, hein, c'est assez ingrat, il faut du temps pour maîtriser le geste technique, le bateau est dans un sens, on tourne le dos dans la marche, le siège sur lequel on est assis va dans un sens puis dans l'autre, les avirons vont aussi dans un sens puis dans l'autre, il y a beaucoup d'inversions, c'est compliqué en fait, hein, pour débuter, le matériel il est assez lourd, fragile, encombrant. Il faut le nettoyer après les sorties, donc il y a une grande rigueur à demander pour faire de l'aviron en fait, hein, qui est pas forcément simple à mettre en œuvre chez des gens qui sont déjà adultes et qui n'ont pas forcément envie ou la patience de faire ça. Après, pour rebondir par rapport à ce que disait Jean-Paul pour la compétition, je pense que vouloir gagner c'est très bien, bien sûr, mais il faut au départ quand même aimer ce qu'on fait, quoi. Si on n'aime pas ce qu'on fait, forcément on va vous être découragé assez rapidement. Et si malgré les déceptions du début, on aime vraiment ce qu'on fait, on s'accroche et c'est important aussi. Moi, je me rappelle avoir fait des contre-performances, des fois des dimanches soirs, être très déçu. Bon, le mardi soir, il faut les entraîner et c'était fini, quoi, parce qu'il faisait beau, parce que j'avais envie d'aller ramer. Et voilà, j'oubliais mes déceptions.
Et c'est là aussi que le club a son importance dans le rôle social aussi, d'être soutenu par son équipe
et
par ses pairs, en fait.
Tout à fait. Hein. Quelqu'un qui a... Moi, je... Avoir quelqu'un qui tire à l'arc et pour lui c'est inné et tout ça, et être derrière lui pour dire de l'entraîner, on va lui donner des billes pour aller encore plus haut. Mais je veux dire, quand il est en compétition, s'il y a quelqu'un qui tire très bien, qui met ses flèches dans la zone définie au départ, parce qu'on ne demande pas à faire des 10 tout le temps, hein, parce que faire des 10 tout le temps...
On n'est pas des machines. Hein.
Le mec il est champion olympique à la fin, s'il fait des 10 tout le temps. Hein. Hein, donc nous c'est pas facile, hein, alors que pourtant le niveau il est quand même très haut en tir à l'arc, hein, parce qu'il faut savoir que la cible aux Jeux Olympiques fait 122 cm. On est à 70 mètres. Donc 70 mètres c'est quand même une bonne distance. Le 10, c'est-à-dire qu'il est à la taille d'un CD,
d'accord,
fait 12 cm à 70 mètres. Donc faire que des 10 en tenant compte qu'il y a du vent, qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, c'est pas facile. Hein. Donc il faut travailler sur la concentration, il faut travailler sur la maîtrise de soi. Hein. Si on arrive à mettre tout ça en place, on arrive à faire quelque chose. Puis il faut avoir plaisir à tirer et il faut s'amuser. Il faut s'amuser. C'est la personne qui s'amuse pas.
Comme disait Benoît. Hein.
La personne qui s'amuse pas n'arrivera jamais à rien parce qu'elle va s'énerver. Comme elle va se déconcentrer,
elle n'y arrivera pas. Bah merci beaucoup Jean-Paul. On va faire une petite pause musicale et puis on revient après. J'ai encore quelques questions pour toi. Je propose Bohemian Rhapsody, d'ailleurs. Enfin, je te propose pas du tout, c'est toi qui me l'as proposé.
Tout à fait.
Et c'est parti.
Reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows. Doesn't really matter to me, Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. It just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on.
Will you do the fandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo
Figaro.
Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah!
No, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go.
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go!
Beelzebub has a devil put aside for me! For me!
Just got
Et nous voilà de retour dans La Voix de la Plume avec nos invités de ce soir, Benoît de Coq, auteur du recueil, j'arrive pas à le dire, à chaque fois j'ai envie de dire roman, c'est fou, hein, du recueil de nouvelles Fausse Pelle, qui nous parle de l'aviron, et avec Jean-Paul Bognon, ancien entraîneur de tir à l'arc de Compiègne, qui nous parle de son expérience.
Oui, pas ancien, toujours.
Ah mais oui, parce que tu t'occupes encore des adultes.
Je fais encore des entraînements adultes. Hein, mais je suis retraité, mais bénévole maintenant.
Donc entraîneur bénévole maintenant.
Tout à fait.
Après, du coup, 26 ans déjà passé au tir à l'arc, hein, c'était peut-être vers 40 ans.
À 40 ans, j'ai découvert ça.
Ben justement, aujourd'hui, c'était la fête des assauts sur Compiègne. Donc, il y a beaucoup de jeunes et d'adultes qui ont cherché, à mon avis, quelles activités pourraient bien faire pour cette rentrée. Je me demandais à partir de quel âge on peut s'inscrire au tir à l'arc.
Alors, au niveau du tir à l'arc, on peut commencer à partir de 8 ans. Hein, on ne les prend pas plus tôt parce qu'il faut savoir qu'il faut tirer sur l'arc. Hein. Donc, les arcs, il y a des petites puissances quand même, mais il faut savoir que la stature debout pour quelqu'un, hein, se termine à l'âge de 11 ans, 12 ans à peu près.
D'accord.
Donc, on ne voudrait pas parce que tout se passe au niveau des épaules, bien sûr, sur la ceinture scapulaire, tout ce qui est épaule. Donc, on ne veut pas détruire, l'ossature des enfants.
Donc, pour la croissance, finalement, c'est mieux de ne pas commencer avant 8 ans.
Ah, voilà. C'est pas, parce qu'il y en a plein. Nous, sur la fête des associations, quand on fait notre démonstration, des fois, je fais tirer des gamins de 3 ans, 4 ans. Hein, donc, on les aide, on tire. Ah, ils sont contents comme pas ça. Les parents sont contents comme pas ça.
On peut s'inscrire ? Eh ben non.
Voilà. Non. On leur dit, après tu viendras, mais on a lancé la petite pépite. Clac.
Vous avez fait briller les étoiles dans les yeux des
donc,
enfants.
Donc voilà, et après les gens viennent, ils vont essayer deux, trois séances gratuitement, et puis après on les laisse faire leur choix.
D'accord. Et on peut commencer aussi en étant adulte.
Et on peut commencer en étant adulte. Ça, il n'y a aucun souci. Les adultes, on peut commencer à n'importe quel âge. On a eu le cas il est décédé maintenant, mais il travaillait dans une usine de Compiègne. Il a toujours voulu faire du tir à l'arc, mais il voulait faire toujours les choses bien. Hein. Mais il a commencé à 60 ans le tir à l'arc. Il est venu s'entraîner tous les jours, pendant 2h30 tous les jours. Hein. Il a été triple champion de France, donc à 70 mètres, hein, à 50 mètres. Hein, et au niveau du burceau, le jeu traditionnel de tir à l'arc. Donc, il n'y a pas de souci dans sa catégorie, bien sûr.
Les espérances de performance, même en commençant sur le tard, il n'y a pas de souci.
Non,
hein.
Dans sa catégorie, oui. Hein. Donc, il était ce qu'on appelle super vétéran, mais il n'y a pas d'âge. Le tir à l'arc, on peut le faire, comme je dis, de 8 ans à 99 ans. Après, ça va être les muscles, tout ça, qui vont un peu fatiguer, mais quand on a envie, on peut faire.
Très bien. Et pour l'aviron, Benoît, on peut commencer à quel âge ?
Idéalement, je dirais entre 12 et 14 ans. Auparavant, le matériel est peut-être un petit peu trop lourd à porter, pas forcément adapté non plus. Et les compétitions vraiment sérieuses commencent vers 15 ans. Donc, c'est peut-être un petit peu trop long aussi à attendre. Après, si on prend des enfants de 10 ans, il se passe un peu d'années sans qu'il se passe forcément grand-chose. Donc, 12 ans, 14 ans, ce serait bien.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des... du coup, je pense à ça, comme c'est un sport qu'on commence, un peu dire entre guillemets, un peu tard, déjà à l'adolescence, est-ce qu'il y a des sports de prédilection qu'on fait avant de faire de l'aviron ?
Pour faire du sport, n'importe lequel, je pense. De toute façon, je crois beaucoup aussi à la culture générale sportive. Donc il faut faire un peu de tout, je pense. Il faut courir, il faut faire du vélo, il faut faire du sport collectif, il faut...
C'est justement le moment de tester plein de trucs.
Grimper, lancer, sauter, ramper, tout ce qu'on veut. Quoi. Donc, faire des arts martiaux, voilà. Ouais.
De toute façon, dans tous les sports, je pense qu'il faut travailler. Nous, le tir à l'arc, les gens disent « Oh, c'est bien, le tir à l'arc, on ne bouge pas trop, on ne court pas, on y va, on tire des flèches, c'est très bien. » Mais avant de tirer des flèches, on entretient le corps du haut en bas.
Hein. Vous avez une salle de sport, du coup vous disiez que vous aviez accès à la salle de sport au-dessus de la piscine de Huy, mais vous avez aussi une salle de sport.
Voilà. Et il faut entraîner tout le corps, hein, parce que pour pouvoir tirer à l'arc, par exemple, tout ce qui est gainage au niveau des abdos et tout, il faut que ce soit gainé.
Oh my god.
Hein, il faut que ce soit gainé. Donc on fait beaucoup de gainage, des choses comme ça. Alors sur les enfants, au départ, ça râle un petit peu. Et après, ils sont tout contents parce que moi, je faisais du gainage sur une musique de Bruno Mars. Hein, et que c'était des athlètes de gymnase qui faisaient ça. Ça durait 4 minutes. Hein. Au départ, ils étaient morts de chez morts. Hein, et après, ils ont redemandé. Donc ça dépend comment on l'amène et tout. Oui.
Toujours la pédagogie.
Et sur des petits. Hein.
Donc, et du coup, je me demandais, qu'est-ce que ça apporte, admettons, de commencer le tir à l'arc jeune ou l'aviron jeune? Quelles sont les choses qu'on apprend, à part savoir faire de l'aviron et savoir tirer des flèches? Qu'est-ce qu'on gagne en fait de faire un arlo?
Tu es obligé d'avoir, si tu veux réussir, il faut avoir une maîtrise de ce que tu es en train de faire. Donc tu vas avoir confiance, tu vas développer ta confiance, et c'est très bien. Des personnes qui sont introverties, ils vont réussir du fait qu'ils vont avoir confiance en eux, ils vont s'ouvrir aux gens.
Hein.
Et des personnes extraverties, c'est le contraire. Si tu veux réussir, calme-toi.
Donc il y a un travail de maîtrise de soi et de concentration.
Et voilà, et puis en faisant ça, ils arrivent à faire les choses.
Et du coup, si c'est un sport qu'on fait régulièrement, ça, c'est quelque chose qui va se répercuter sur notre vie, en fait.
Tout à fait.
Sur notre... Hein. Benoît, t'as...
Oui, le sport apporte énormément, je trouve, notamment pour le monde du travail. Enfin, ça apprend la remise en question, le travail en équipe, le fait de persévérer. Enfin, je trouve que les acquis du sport sont énormes, on ne les connaît pas suffisamment. Enfin...
Moi, je vois tout au niveau des pôles et même des gens du club, hein, des jeunes qui travaillent et tout. Hein, parce que quand on leur dit « vous avez 17 heures d'entraînement par semaine », les parents vont dire « mais attends, ils vont travailler quand mes gosses ne bougent pas ?» Ils vont se mettre une organisation. S'ils ont vraiment envie de faire du sport et du tir à l'arc en conséquence, hein, ils vont faire attention et ils vont s'organiser. Hein.
Ouais, mais ils vont se découvrir des compétences que les parents ne pensaient pas qu'ils avaient.
Ils vont vraiment être carré de chez carré à un moment donné. Hein. Nous, on a 100% de réussite au bac pour les jeunes qui vont... Donc, c'est pas un problème, ça. C'est pas un problème. Ça, le sport et les études sont très compatibles.
Oui, parce que ça apporte...
C'est même complémentaire. Je pense qu'en France, on n'a pas trop ce point de vue-là, mais dans les pays anglo-saxons, ils mettent le sport vraiment au cœur de l'université. Hein. Donc,
oui, c'est vrai. Tout à fait.
Sur le plan humain, c'est très très important. Hein.
Ça, c'est ce qui manque un peu. Je vois, nous, une des grosses nations de tir à l'arc, c'est les Coréens. Hein. Sauf que les Coréens, ben, eux, ils ont école le matin et ils choisissent leur sport. Et c'est bon, ils ont tir à l'arc. Hein. Donc, sauf que l'État leur met deux entraîneurs dans l'école pour leur apprendre le tir à l'arc. Et pour tous les sports comme ça.
D'accord.
Hein, l'État français, pour l'instant, ne fait pas ça. Quoi. Hein, et ça se ressent, de toute façon. Ça se ressent.
Donc hein. On encourage vivement tous ceux qui n'ont pas encore trouvé leur activité aujourd'hui à la fête des assos de se rapprocher du club d'aviron et du club de tir à l'arc.
Voilà. Hein, ils peuvent. Donc nous, on a tout mis nos informations sur notre site. Hein, puisqu'on n'a plus de téléphone pour l'instant.
D'accord.
Donc il faut aller voir le site. Hein, et là, vous aurez toutes les informations qui vous intéressent. Et après, ils peuvent passer nous voir, nous, au niveau tir à l'arc, le lundi soir, le mercredi soir et le samedi matin. Donc à partir de 18h en soirée et 9h le samedi matin à la salle qui se trouve à Nudeuilly, donc au-dessus de la piscine.
D'accord. Qui a déménagé là pendant les travaux.
On déménage là pendant tous les travaux.
Très bien. Ben merci beaucoup à tous les deux. C'est vraiment chouette de vous avoir reçu aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va pas faire d'atelier d'écriture pour cette émission de rentrée. Je vous épargne le supplice parce que souvent, que ce soit les invités ou les auteurs, ils sont toujours en train de me dire que c'est compliqué d'écrire en un temps imparti et tout ça. Donc je vous l'épargne pour aujourd'hui. J'en profite d'ailleurs pour annoncer pourquoi en fait je ne fais pas d'atelier d'écriture aujourd'hui? Ben en fait, les bibliothèques de Compiègne proposent elles aussi des activités nouvelles, dont une pour cette rentrée. Un atelier d'écriture, hein, c'était pas un gros suspense, mais si vous pensez que passer à la radio, ce serait une expérience intéressante, vous trouvez ça cool, eh ben j'invite tous les auditeurs que ça peut intéresser à s'inscrire à ces ateliers, où ils pourront découvrir comment on écrit une chronique pour la radio et même passer dans leur propre émission. Voilà, c'est moi qui animerai en personne ces ateliers à la Bibliothèque Saint-Corneille à Compiègne. Et pour plus de renseignements ou pour s'inscrire, c'est très simple. Ils peuvent venir dans l'une des bibliothèques pour prendre des infos ou s'inscrire. Ou alors par mail à bibliothèque au pluriel @mairie-compiègne.fr. Voilà. Revenons à nos invités de ce soir. Si je ne fais pas d'atelier d'écriture pour autant, je ne vous dispense pas de tout et j'aimerais bien qu'on fasse ensemble un petit portrait chinois de vous. Donc, si vous êtes prêts, réponds qui veut, les deux, l'un après l'autre, vous faites comme vous le sentez. Je commence, allez, la première, je commence pour Jean-Paul, parce qu'après tous ces voyages que tu as dû faire ou ces déplacements que tu as eus pour tes... pour tes compétitions avec la Fédé, tu as dû sûrement faire pas mal de restos. Alors du coup, je me demande, si tu étais une spécialité culinaire, tu serais quoi, Jean-Paul ?
Une spécialité culinaire. Donc, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le colombo. Colombo de poulet.
Ah, tu le fais très bien aussi, je me souviens de ça.
Colombo de poulet, ça c'est une chose que je fais bien. Mais après, j'adore manger, hein. Donc ça, on me le reproche souvent, parce que, par mes enfants surtout, parce que, étant donné que je suis gourmand, je suis large. Hein, mais je me sens bien comme ça, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Bon, c'est peut-être un peu dur maintenant, hein, avec l'âge. Hein, mais j'adore faire la cuisine, j'adore faire plein de choses, découvrir des choses, et puis faire tout à ma sauce, je dirais. Parce que j'aime bien la crème fraîche, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui se terminent à la crème fraîche. Bon, après tout ce qui est tartiflette, les plats du coin. Puis quand je partais à droite dans les restaurants, ben, on découvrait la gastronomie de chaque région. Hein, et c'est vrai que c'est très agréable, quoi.
Ok, donc on part quand même sur un colombon de poulet. Benoît, si tu étais une spécialité culinaire ?
Moi j'aime beaucoup aussi bien manger, hein, mais je dirais malgré tout un plat italien. Un plat simple, mais avec que des bons légumes dedans, des bons produits, la bonne mozzarella, ce genre de choses. Voilà.
D'accord, donc pas un plat spécifique, mais du coup...
Pas trop élaboré, mais avec des bons produits à la base, c'est tout.
Ah, moi aussi, je mets des bons produits.
Ah oui, oui. si vous étiez un animal, vous seriez quoi ? Pas tous à la fois. Hein.
Non, je suis en train de réfléchir un petit peu quel genre d'animal
je serais. Moi, je dirais un ours, voilà.
Toi, tu serais un ours ?
Oui.
Tu resterais dans ta caverne ?
Voilà.
Non, je serais plus un animal sympathique. Je vais reprendre l'exemple de la chienne de ma fille, hein, Orca, qui est hyper gentil, hyper câlin.
Si t'étais un animal, tu serais une chienne ?
Hein, non, peut-être. peut-être. Non, je serais un chien, je pense, quand même. Hein, mais pourquoi pas trouver mon côté féminin, peut-être aussi.
Ok, je note ça. Si vous étiez un roman.
Là, tu me poses une colle, comme je lis pas trop. Alors, si j'étais un roman, c'est pas. Je vais reprendre un livre que j'avais bien aimé dans ma jeunesse, c'était Rose à crédit d'Elsa Triolet.
Rose à crédit d'Elsa Triolet ?
Ouais.
Hein. Je ne connais pas du tout, mais ça vaut le coup de se pencher sur la question.
C'est Rose à crédit, c'était un peu... En gros, l'histoire, c'était une petite fille qui avait vu la déchéance de sa mère tomber dans les crédits, à force d'avoir des crédits, des trucs comme ça, elle se retrouvait presque à la rue. Elle fait « Moi, je ne ferai jamais comme ma mère ». Et puis à la fin, elle fait comme sa mère. Hein, et je pense que c'est un peu par rapport à la société, au moment où les crédits sont très, très faciles à prendre. Que...
Voilà, un peu comme en ce moment d'ailleurs, il faut faire attention.
Il faut faire attention, tout à fait.
Benoît ?
Moi j'avais été très marqué par Vierge au bout de la nuit de Céline. En fait, c'est un livre avec plein de descriptions tristes, dramatiques, même sinistres. Mais malgré tout, c'est beau. Malgré tout, c'est poétique. Voilà
j'allais dire, il y a encore ce côté poétique qu'on retrouve.
C'est tout un peu terrible, triste, sale, sinistre. Malgré tout, on voit de la poésie quelque part.
Donc ça a influencé ton style aussi, peut-être ?
Non, je n'irai pas jusque-là. Mm.
Si vous étiez un film. Donc, je sais, Jean-Paul, que tu apprécies particulièrement les films. J'ai mémoire de ta belle collection.
C'est vrai que j'ai beaucoup de DVD. Si j'étais un film, comme bon, je suis beaucoup dans, j'adore tout ce qui est le film de science-fiction, ces choses-là. Donc, j'irai en chercher un vieux, hein, 2001 Odyssée de l'espace.
Allez, c'est vendu. Benoît ?
Il y a tellement de films qui m'ont marqué, mais là, je dirais simplement, en clin d'œil, j'ai envie de dire Mulholland Drive de David Lynch. En fait, c'est un film qui m'avait fasciné quand je l'ai vu, et en même temps, j'avais absolument rien compris. C'était tellement énigmatique, tellement compliqué. Alors, j'ai revu après, j'ai aussi lu des choses dessus qui m'ont fait comprendre le film, mais c'était marrant d'être fasciné à ce point par un film, et en même temps, sans le comprendre du tout. Quoi. Je trouvais ça assez terrible, assez fort. Ouais.
Et une petite dernière pour terminer, si vous étiez un objet.
Ben moi, ce serait une rame d'aviron, une pelle, bien sûr.
Une flèche qui arrive au 10.
Tant qu'à faire.
Ah, tant qu'à faire, oui.
Super, ben, merci beaucoup. On termine là-dessus. J'étais ravie de vous avoir dans le studio aujourd'hui. J'espère qu'on se reverra bientôt. Et on rappelle donc le recueil de nouvelles de Benoît Decoq, Fausse Pelle. On peut le trouver sur le site des éditions Salto, S-A-L-T-O. Et Jean-Paul, et on peut le retrouver au Club de tir à l'arc de Compiègne.
Ouais. Alors s'ils veulent, comme tout à l'heure j'ai dit, les informations sur le site. Donc le site, c'est lesarchesdecompiègne.com.
D'accord,
les lesarchesdecompiègne.com.
Et les permanences ?
À partir de 18h le lundi, le mercredi à partir de 18h. Et le samedi matin à partir de 9h.
Très bien.
Il y aura des cours en même temps, donc les gens pourront venir essayer.
Hein, Et oui, du coup, comme on est en septembre, ça va pouvoir...
On va démarrer le 13 exactement.
D'accord. Septembre. Très bien, donc ça démarre lundi prochain. Ouais. Et Benoît, j'ai oublié ta page Facebook, Fausse Pelle au pluriel,
c'est ça.
Pour avoir toutes les infos, les articles, tout ça qui ont été postés. Sur le livre. Eh bien, on se quitte en musique avec un morceau choisi par notre auteur de ce soir. Il s'agit d'Iggy Pop, Glown in the Dark. Eh bien non, ça ne va pas être ça, parce que je viens de supprimer la musique. Eh bien, on se quitte sans musique. C'est pas grave, on retourne sur les ondes de graphite. Bonne soirée à tout le monde.
Bonne soirée, merci. Au revoir.